Bonjour à chacune et chacun. Alors c'est intéressant parce que Daniela nous a parlé de... Tiens, un petit reste de ce matin. Daniela nous a parlé de l'espérance. Eh bien moi j'ai à cœur de vous parler des promesses. Et c'est intéressant parce que l'espérance est vraiment une promesse magnifique que nous avons de notre Seigneur. Et c'est vrai que le message de ce matin fait suite au message que Pierre et Jean-Paul nous ont apporté ces derniers dimanches. Sur le thème donc des promesses de Dieu, les promesses que Dieu a en réserve pour nous. C'est vrai que cette question des promesses de Dieu et le fait d'en prendre pleinement conscience est vraiment important pour le développement de notre vie spirituelle. Le thème des promesses de Dieu nous aide à développer notre vie spirituelle de façon concrète et de façon pratique. On est là dans le vécu de tous les jours. Alors, il y a quelques aspects théoriques, mais les promesses ont vraiment une incidence sur ce que nous vivons de façon toute pratique chaque jour, avec notre Dieu d'une part et avec le monde qui nous entoure aussi. Les objectifs sont donc que la parole de Dieu, par le biais des promesses, transforme notre vie quotidienne. Ou bien, laisser place aux promesses de Dieu dans notre vie, c'est aussi laisser la place à la vie abondante que Jésus nous promet, et qui est caché en lui, lui qui est le seul fondement. Il y a dans la Bible 1260 promesses. Ça fait un sacré paquet. Alors, rassurez-vous, on ne va pas les lire toutes ce matin, mais on va commencer par s'arrêter déjà sur deux promesses, histoire de nous donner un petit peu envie. Tout d'abord en Colossiens 2, les versets 8 à 10, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui, donc en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est intéressant de voir qu'après nous avoir exhortés à nous appuyer sur Christ seul, Paul nous donne cette promesse de la part de Dieu, vous avez tout pleinement en lui, en Christ. Une autre promesse qu'on trouve dans 1 Jean au chapitre 5, en effet l'amour envers Dieu consiste à respecter les commandements. Or, ces commandements ne représente pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? En voilà donc une autre promesse encourageante. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Mais le moyen par lequel nous remportons cette victoire, et c'est là que c'est intéressant, c'est notre foi qui a pour objet le Fils de Dieu. Tout nous ramène donc à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, la question de la certitude des promesses. C'est vrai que c'est important, lorsqu'on parle des promesses de Dieu, de savoir qu'est-ce qui nous permet de nous appuyer sur elles comme sur des vérités fondamentales. Alors tout d'abord, il y a le fait que Dieu est un Dieu d'alliance. C'est vrai que le fait que Dieu est un Dieu d'alliance, donc un Dieu qui s'engage, est une caractéristique de Dieu que l'on trouve dans toute la Bible. Depuis le premier livre jusqu'au dernier livre de la Bible, on voit un Dieu qui s'engage, un Dieu qui crée des alliances avec l'homme qu'il a créé. Et c'est parce que Dieu est un Dieu d'alliance qu'il y a autant de promesses dans la Bible. Vous voyez un petit peu le lien entre les deux. Par exemple, l'alliance que Dieu a conclue avec Noé est caractéristique justement de son engagement. On la trouve dans Genèse 9. C'est donc Dieu qui parle. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu a même donné un signe pour attester de son alliance. Ce signe, c'est donc l'arc-en-ciel que l'on voit dans les nuages après l'orage. On peut aussi se rappeler l'alliance que Dieu a faite avec David et qui est aussi valable pour ses enfants aujourd'hui. C'est David qui parle. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglée et bien gardée, ou bien offrant pleine sécurité. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Non seulement Dieu est un Dieu d'alliance, mais il est aussi un Dieu, donc un Dieu qui s'engage, mais il ne change pas. Bien sûr, nous savons tous que Dieu ne change pas, c'est une évidence. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, on le sait depuis longtemps. Mais pourtant, ce n'est pas forcément évident d'intégrer le fait que Dieu ne change pas, qu'il est immuable dans nos raisonnements. Ce n'est pas évident parce que, tout d'abord, tout ce qui est autour de nous change. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non seulement tout ce qui est autour de nous change, mais ça change de plus en plus vite. Mais Dieu, lui, ne change pas. Même ce que nous comprenons de Dieu change. Mais lui, Dieu ne change pas. Vous voyez la différence entre, d'une part, notre Dieu qui ne change pas, et d'autre part, la connaissance que nous avons de lui, qui change, qui s'affine et qui se développe au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître. C'est aussi cela la sanctification. Nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. C'était justement le sujet que Pierre a développé il y a 3 semaines. Dieu ne change pas, mais notre révélation de sa parole, de sa personne, pardon, est appelée à changer. Il y a dans la Bible un mystère, moi, qui me surprend toujours. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, je l'espère. Lorsque je lis ma Bible, je lis forcément des passages que j'ai déjà lus et relus plusieurs fois. Eh bien, à chaque fois que j'ouvre ma Bible, la parole de Dieu, et que Dieu se révèle à moi, je comprends de nouvelles choses. Je comprends de nouvelles choses sur des passages qui m'ont déjà apporté d'autres choses par le passé. Dieu ne change pas, la Bible ne change pas, mais lorsque je lis la Bible, ma connaissance et ma compréhension de Dieu changent, elles se développent. Dieu ne change pas et ses promesses sont véritables, c'est-à-dire elles sont vraies, elles sont certaines, elles sont comme programmées pour s'accomplir car elles viennent de Dieu. Dieu qui ne change pas et dont les promesses non plus ne changent pas. Maintenant, un autre élément aussi qui est important de bien comprendre, c'est le fait que la parole de Dieu est efficace. C'est parce que Dieu accomplit ses promesses que la parole de Dieu est puissante et efficace. Autant Dieu est un Dieu d'alliance, il s'engage et ne change pas, autant la parole de Dieu, qui est souvent l'élément par lequel ses promesses nous sont communiquées, est efficace. Elle est vivante, elle crée, elle a une réelle autorité, notamment concernant les promesses de Dieu pour nous. Et c'est vrai qu'on lit dans Ésaïe, « Mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole de Dieu est donc bien vivante. Elle crée, elle a une autorité indéniable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tout de suite après ces versets qui appuient l'autorité de la parole de Dieu et la certitude de l'accomplissement de ses promesses, nous trouvons 2 versets prophétiques qui nous montrent les effets et les conséquences de l'accomplissement de ses promesses. Ésaïe 55, les versets 12 à 13, juste après. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux, poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Si là, ce n'est pas un Dieu qui s'engage. Les promesses de Dieu, par contre, c'est intéressant de voir qu'elles sont toujours positives. Elles sont comme la manifestation ou le débordement de l'amour que Dieu a pour nous. Alors maintenant, on arrive à la question des conditions d'accès aux promesses divines. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès ? C'est vrai que c'est un sujet important, cette question des conditions d'accès. S'il est mal compris, cela peut nous faire passer à côté de la façon comment nous avons à nous les approprier. Dieu exige-t-il des conditions pour accéder à ses promesses ? J'aimerais tout d'abord dire que l'accomplissement des promesses n'est en aucun cas la réponse à notre mérite ou à ce que nous pouvons faire de bon pour notre Dieu. Nous n'avons pas de bonnes œuvres à accomplir par nous-mêmes pour accéder aux promesses de Dieu. Elles sont inconditionnelles dans le sens qu'elles ne sont pas réservées à certaines catégories de personnes. Elles ne sont pas réservées à l'élite des chrétiens. Dieu les donne à tous ses enfants sans distinction. Il n'y a pas de conditions restrictives. Il y a cependant des conditions précises, conditions que Dieu laisse accessibles à chacun, conditions que l'on peut tous atteindre, que l'on peut tous remplir plutôt. Tout d'abord, les promesses de Dieu sont la plupart du temps données pour ses enfants, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le salut de Dieu que Dieu nous offre gratuitement. Salut accompli à la croix par Jésus-Christ, une fois pour toutes, et qui nous lave du péché qui sépare l'humanité de son Créateur. Être enfant de Dieu est dans ce sens-là la première condition à remplir. Ensuite, nous avons à réaliser ce que Paul nous dit en Colossiens. Vous vous rappelez Colossiens 2, versets 8 à 10, qu'on a lu tout à l'heure. Relisons maintenant le verset 10. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Christ. Le mot pleinement est ici en lien direct avec Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement parce que c'est en Christ qu'on a tout pleinement. Puisque nous avons tout pleinement en Christ, nous ne pouvons rien ajouter par nous-mêmes. Mais notre nature humaine a cette fâcheuse tendance à vouloir toujours, souvent, nous entraîner sur le chemin du faire pour mériter. Et cette notion du faire pour mériter, elle est foncièrement humaine. À ce sujet, on peut se rappeler 1 Jean 5 que nous avons lu tout à l'heure. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est l'œuvre de Jésus-Christ et seulement l'œuvre de Jésus-Christ qui nous justifie. Nous ne pourrons jamais par nous-mêmes devenir plus justes ou grandir en justice par nous-mêmes. Cette pensée du faire pour mériter, moi je dirais, elle est même opposée à la pensée de Dieu. Elle est opposée à la pensée de Dieu parce que inconsciemment, le fait de croire qu'on pourrait mériter même la plus petite des choses par nous-mêmes est bien sûr une atteinte directe à l'œuvre de Jésus-Christ qui, lui, a réellement triomphé du monde. Rappelons-nous aussi ce que les Hébreux ont vécu lors de la sortie d'Égypte. Après la 12e plaie, le Pharaon a laissé partir les Hébreux qui ont pris la direction de la mer. Ils auraient pu prendre une autre direction, mais il se trouve qu'ils ont pris la direction de la mer, ils ont été conduits comme ça. Mais ensuite, Dieu a endurci le cœur de Pharaon, qui a regretté de les avoir laissés partir et qui les a pourchassés. Et Pharaon, il savait qu'ils étaient face à la mer, donc il savait qu'ils étaient un petit peu bloqués contre la mer, qu'ils étaient dans un cul-de-sac, donc qu'ils ne pourraient pas s'enfuir. Les Hébreux, à ce moment-là, ils ont eu très peur. Et voici ce que Moïse leur a dit. N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. C'est pas toujours évident de garder le silence, surtout dans des circonstances comme celle-là. Lorsqu'on croit ses promesses, on a bien souvent qu'à garder le silence, rester dans son repos, lui faire confiance. Car c'est une certitude que l'Éternel accomplit ses promesses. Enfin, concernant la question des conditions d'accès aux promesses divines, nous retrouvons ce grand principe biblique selon lequel Dieu ne force pas. Il laisse libre chaque personne de ses choix. Nous avons donc notre volonté à manifester, mais on va revenir un petit peu plus tard sur ce point. Voyons maintenant la question que ces promesses sont comme des créances. Après avoir vu que Dieu s'engage par les promesses qu'il nous donne et que nous recevons tout de lui par pure grâce et non en fonction d'un quelconque mérite, considérons maintenant la nature de ces promesses. Parce que Dieu s'engage par les promesses qu'il nous donne, c'est comme si Dieu est redevable des promesses qu'il nous a faites. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu mon raisonnement. Une créance, en fait, c'est une valeur qu'une personne doit à une autre personne en contrepartie d'un service. Par exemple, lorsqu'on emprunte de l'argent à une banque pour acheter une maison, une voiture ou autre chose, on est débiteur de la banque et la banque est notre créancier. Il y a entre les deux une créance. Comme Dieu nous a promis ses promesses sont comme devenues des créances qu'il nous doit, puisqu'elles sont promises. Il nous reste cependant à faire valoir les créances de ses promesses pour en prendre possession. Lisons à ce sujet ce qui nous est dit en 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Il y a là tout un programme. Cependant, la traduction du verset 5, moi, j'ai la Bible avec la traduction second 21, et c'est vrai que la façon comment le verset 5 est traduit, ça m'a interpellé. Il est marqué « Faites tous vos efforts ». Et c'est vrai que ce « Faites tous vos efforts » laisse supposer des efforts humains. Donc, d'une certaine façon, une forme de mérite, si on veut. Alors, j'ai été voir le contenu d'autres traductions, et ça m'a rassuré un petit peu parce que je n'ai pas retrouvé cette connotation qu'il devait y avoir des efforts qui pourraient être compris comme venant de nous, venant de notre intérieur. Alors, j'ai été voir plusieurs traductions. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de recoupements entre les traductions. Et c'est vrai que Louis Bonnet et Darby traduisent par « y apportant tout empressement, joignez à votre foi », ainsi de suite. Martin, un petit peu plus ancien, a dit, y donnant tous vos soins, ajoutez la vertu, etc. Osterwald, aussi au 18e, a traduit par y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre, etc. Alors c'est intéressant parce que il est plus question ici d'empressement, de joindre ou d'ajouter, et cela correspond donc plus au fait de prendre la décision de s'engager. Il n'y a donc pas de connotation de devoir faire quelque chose par nous-mêmes. Par contre, ce qui est clairement mentionné ici, c'est qu'on doit s'engager, prendre la décision, on doit prendre position en fait. Et la condition que nous devons remplir, c'est donc la question de notre engagement personnel. C'est ça qui est important. Dans ce même ordre d'idées, nous avons aussi à être sensibles aux interventions de Dieu dans ce que nous vivons. Et pour illustrer cela, je vous propose de regarder un petit dessin animé. C'est pas courant, on n'a pas forcément l'habitude. Un petit dessin animé dans lequel nous pouvons facilement nous reconnaître. Ce dessin animé, qui est assez court, il dure un petit peu plus de 2 minutes, il est le fruit du travail d'Alain Ondercé, un dessinateur chrétien, qui a aussi dessiné plusieurs bandes dessinées chrétiennes. Je crois que certaines doivent être à la librairie. Alors, juste pour vous présenter un petit peu les personnages de la petite BD, à gauche, vous trouvez le personnage principal, qui est celui peut-être à qui on peut s'identifier. Et puis à droite, la personne qui est peut-être son amie, sa copine ou sa fiancée. Enfin voilà. Et puis le petit escargot tout en bas, qui est un petit peu le spectateur. Et puis il est aussi partie prenante de l'histoire, vous verrez. On voit bien que le fait de ne pas prêter attention aux multiples actions que la main de Dieu fait pour le conduire vers ce qui est bon pour lui, c'est vrai que naturellement, l'homme a tendance à se fier à ce qui attire son regard. Il a même dû fabriquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout un montage pour n'avoir finalement que l'illusion d'être désaltéré. Que l'illusion d'être désaltéré. Parce qu'une goutte, je ne pense pas que ça allait vraiment désaltérer. Je pensais que je serais plus long que ça, mais peut-être on va repasser la vidéo, Clément. Et je vous invite à réfléchir pour repérer un petit peu tous les éléments dans cette petite histoire, tous les éléments auxquels, les éléments, je dirais, qui ont attiré son attention de façon tout à fait humaine. Et ensuite aussi les éléments, quelles étaient les actions de Dieu pour lui montrer sa volonté, pour lui montrer ce qu'il avait en réserve pour lui. Vous avez vu, il y a toutes ces mains qui interviennent. On voit peut-être pas bien parce que les couleurs sont pas forcément bien rendues, mais lorsque Dieu le prend dans sa main et puis qu'il lui tourne son regard, il y a un petit panneau avec une flèche où il y a l'indication d'une source. Alors on voit pas bien sur l'écran le petit dessin de la source, mais donc Dieu lui montre une source et lui, au lieu de rentrer dans ce que Dieu lui montre, il retourne à ce qu'il a vu, à ce qu'il peut toucher, à ce qu'il peut voir. En guise de conclusion, je vous invite à lire une magnifique promesse qu'on trouve dans Ésaïe 54. C'est une promesse qui est faite au peuple d'Israël et elle fait suite au chapitre 53 qui nous parle du sacrifice de Jésus-Christ et de ses souffrances. Et le chapitre 54, lui, est porteur d'espérance pour Israël, espérance que l'on peut aussi s'approprier pour nous-mêmes. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie tes toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je vous invite à quelques minutes de silence pour réfléchir à cela, repenser à ces promesses, à ce qu'elles représentent pour nous, à la façon comment nous nous les approprions, à la façon comment nous rentrons dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et puis je terminerai ce moment par une prière. Oui Seigneur, nous voulons te remercier ce matin parce que tu es un Dieu d'alliance, tu es un Dieu qui s'engage, tu es un Dieu qui nous donne des promesses. Merci Seigneur parce que nous pouvons te faire confiance, nous pouvons faire confiance à tes promesses aussi. Merci parce que tu ne changes pas, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oui Seigneur, merci parce que les promesses que tu nous donnes sont la manifestation de ton amour pour nous, de ton amour qui est immense, que nous ne comprenons pas forcément toujours, mais cela nous fait du bien de savoir que ton amour est quelque chose de solide, de savoir que l'on peut te faire confiance. Sois loué, sois béni Seigneur pour toutes les promesses que tu en réserves pour nous. Amen. Nous passons maintenant aux annonces. Alors, il y a pas mal d'annonces, dans le sens où il y a quelque chose tous les soirs, sauf vendredi soir. Hein? Oui, puis le vendredi soir, effectivement, il y a encore quelque chose. Demain, lundi, Femme Club à 18h. Donc, à 18h, c'est la dernière rencontre du Femme Club, un petit peu la clôture de l'année. À 19h30, le conseil. Mardi, à 20h30, la réunion de prière. Mercredi à 19h30, la commission de travaux qui se réunit. Jeudi 20, la chorale qui a été déplacée. Vendredi, la répète du groupe Louange. Samedi, le groupe de jeunes. Qu'est-ce qui est prévu pour le groupe de jeunes samedi?
Samedi, rendez-vous à
8h30 le matin. Ici, à l'église. Donc, n'oubliez pas de mettre le réveil le vendredi soir, peut-être. Un maillot de bain et un jeu.
Un linge de bain.
Ok. Un maillot de bain et un linge de bain. Dimanche, le culte ici, dans cette salle. Oui.
La cellule de Prefsaint a été déplacée à mercredi soir.
Ok. Donc, mercredi soir, la cellule de Prefsaint.
Chez les Tadford.
Ok. Merci. Une annonce aussi en avance pour le dimanche 30. C'est donc un cinquième dimanche qui sera suivi par un repas en commun et puis une réunion de membres l'après-midi, donc le dernier dimanche de juin. Réunion de membres à 14h. Dans les autres informations, on peut penser à Lydia qui a été hospitalisée pour des violentes douleurs. Apparemment, rien de très grave, mais on peut penser à elle quand même. C'est, voilà. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle sort ou voilà. Elle est à Saint-Julien depuis hier, donc c'est assez récent. C'est vrai que c'est important de penser lorsque l'un ou l'autre passe par la souffrance. Oui, oui. Ah ok. Ah oui. D'accord. Ouais.
Oui.
Madeleine, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à partager? Jacques, oui, on peut penser à Jacques, toujours. Prier pour lui, le soutenir, c'est vrai. Mm-hmm. Sinon, on a reçu une carte de remerciement de Sylvia, qui s'est mariée il y a le 6 avril. Un grand remerciement pour l'Église. Sinon, une petite annonce concernant le camp d'été du club d'enfants. On recherche toujours des aides moniteurs. C'est juste, hein? Ouais. Donc, âge idéal entre 15 et 16 ans, mais peut-être qu'il peut y avoir une certaine tolérance par rapport à l'âge. Ce qui est important, par contre, c'est que les personnes puissent s'engager pour la semaine. Les moniteurs et les aides moniteurs, c'est important qu'ils soient les mêmes du début jusqu'à la fin pour qu'il y ait une bonne suite, une bonne continuité dans l'accompagnement qui est offert aux enfants. Oui.
Il y a aussi pour le nettoyage, ils ne sont pas très nombreux. On
ok.
On va pas nettoyer la salle tous
ouais.
les jours, c'est surtout les WC.
Ouais.
Et par contre, le dernier jour, on a besoin vraiment
voilà.
beaucoup de monde parce qu'on va rendre la salle à 20h.
Ok. Donc le nettoyage tous les soirs. Oui. Regardez avec Anne-Marie, le dernier jour, un nettoyage plus à fond pour rendre la salle. Donc le dernier jour, vu que c'est en dehors des heures de boulot, personne n'a d'excuses. Donc ça devrait jouer. Voilà. Ça, c'est un peu trop facile, par contre.
Alors, on va mettre John.
Je vous invite à vous lever pour clore notre culte. Et je vous lis encore... deux versets dans Hébreux 10, les versets 23 et 24. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Amen. Bonne semaine, bon dimanche à chacun.